Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Christian PC, asseyez-vous, s'il vous plaît, car il est temps maintenant de retrouver notre rendez-vous maison.
Mais vous êtes devenu rappeur maintenant.
Bah écoutez, oui, je sais pas. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour changer de corde à son arc.
Et pas rappeur de gruyère, évidemment.
Ah non, ça, je sais pas faire. Comment ça va, Christian PC?
Eh bien, ça va très bien, oui.
On va passer une heure ensemble.
Mais oui, avec
jusqu'à 8h, le bricolage, la maison, la déco sur RMC. Tout à l'heure, on va évoquer les brocantes et les vide-greniers. C'est la bonne période. Est-ce qu'on peut encore faire de bonnes affaires lors des brocantes? Et puis surtout, si on veut en faire, comment organise-t-on tout ça?
Voilà, est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des recommandations à faire? On aura le fondateur, le cofondateur de mybrocante.fr avec nous.
mybrocante.fr.
Anthony Gros Godonier. Voilà.
Ouais, avec mybrocante.fr, à mon avis, il doit connaître son sujet, voilà, quand même. Ou alors, c'est qu'il y a imposture.
N'est-ce pas ?
Ça m'étonnerait quand même que ce soit le cas.
Non, sinon, je ne l'aurais pas fait venir.
En plus. Hein, bon. Je vous rappelle que donc, toutes vos questions brocantes, dès maintenant, même avec un vieux téléphone acheté sur la brocante, hein, vous pouvez nous appeler.
Hein. Oui.
Bon, il faut qu'il soit branché, parce qu'autrement, ça marche moins.
Voilà.
Mais vous pouvez le faire. 3216. Ou bien, là, sur votre smartphone dernier cri, sur l'appli RMC, vous avez Direct Studio. Vous pouvez nous poser votre question avec votre numéro de téléphone. Amina et Gilles vous rappelleront dans la foulée. Christian, on retrouvera aussi votre coup de cœur.
Oui, pour les recommandations émises par le Conseil national de la Silver Economy.
La Silver Economy.
C'est tout ce qui concerne, effectivement, on va pas dire la fin de vie, hein, mais le moment où on commence à avoir quelques problèmes de mobilité. On va voir qu'en la matière, les logements ne sont pas véritablement très adaptés.
Donc c'est plutôt votre coup de gueule, alors.
C'est coup de gueule, mais coup de cœur pour les recommandations que fait ce conseil, et en espérant que le gouvernement les suivra.
Parfait. Et donc, à tout moment, n'hésitez pas à 3216 pour nous appeler et poser vos questions. Bricolage, maison, à Christian PC. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence avec Arnaud qui est là. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bienvenue sur RMC. Bonjour. Mon cher Arnaud.
Bonjour messieurs. Alors, je commence avec ma question.
Mais oui, c'est ça.
Écoutez, oui. Ou alors on peut, qu'est-ce qu'on pourrait se faire, une petite blague?
Ah oui.
Vous n'avez pas une blague, Christian?
J'ai pas une blague.
Petite histoire drôle que vous auriez entendue ces derniers temps. Non, vous avez rien qui vous vient à l'esprit?
Non.
Allez. Moi j'en ai, mais je peux pas les.
Oui, moi non plus. C'est ça.
Pas possible.
À cette heure-ci.
À cette heure-ci, c'est trop tôt. Donc Arnaud, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec votre question, ce sera plus
tout
simple.
Tout à fait. Voilà. Donc voilà, moi je viens de devenir propriétaire d'une maison ancienne, du début des années 80. Mmh. Et cette maison...
Bon ça va, elle n'est pas très ancienne.
Pardon ?
Elle n'est pas très ancienne.
Non mais bon, c'est ce qu'on appelle une maison ancienne, j'y peux rien.
Oui.
Ah bon,
du coup, elle est équipée de tout un système de chauffage au gaz.
Oui.
Avec une citerne enterrée dans le jardin.
Oui.
Et moi, la question, c'est devant en fait les différents contrats des propaniers que je voudrais savoir. Enfin, savoir. J'ai déjà fait des devis, hein, bien sûr. C'était si c'est remplaçable par une PAC. Enfin, je pense que oui, mais est-ce que c'est intéressant? Par une pompe à chaleur, pardon.
Oui, c'est forcément intéressant puisque la PAC, vous savez, ça a ce qu'on appelle un COP, coefficient d'efficacité énergétique, qui fait que lorsque vous dépensez 1 kilowatt, vous en obtenez 3 au bout, voire 4 dans certains cas et même plus pour certaines. Donc c'est effectivement intéressant. Alors, deux solutions. Ou bien vous pouvez très bien garder votre système gaz et installer une pompe à chaleur qui fonctionne tout pendant qu'il ne fait pas trop froid, c'est-à-dire tout pendant qu'on ne descend pas en dessous de zéro ou moins 5, parce que là, la pompe à chaleur continue à fonctionner, mais son utilité énergétique, je dirais, et son côté économique disparaît, puisque quand il fait moins 15, ça continue à vous faire de la chaleur, mais c'est à peu près du 1 pour 1, donc le COP s'effondre. Donc, en conséquence, je dirais que oui, vous pouvez conserver cela, vous pouvez aussi supprimer votre système gaz, et puis avoir par exemple un complément sous la forme d'un poêle à bois, sous la forme d'un insert dans une cheminée. Et là, c'est à peu près le même système, c'est-à-dire que quand il fait très froid, eh bien, vous avez votre complément avec un autre système de chauffage pendant les quelques jours. Maintenant, je ne sais pas dans quelle région. Non, vous êtes dans quelle région ?
Dans le sud des Yvelines, au niveau de Rambouillet.
Oui, donc vous n'êtes pas en Sibérie. Non, vous avez pu remarquer qu'il y avait un petit truc qui s'appelait le réchauffement climatique et que l'hiver, on chauffe quand même beaucoup moins qu'on a chauffé autrefois.
Oui. Si votre maison,
la question, elle est, votre maison des années 80, elle est forcément isolée, peut-être pas très bien. Il faudra peut-être plutôt porter un effort à ce moment-là aussi sur l'isolation de la maison.
C'est ce que je disais à votre assistant Gilles. Justement, elle est très très bien isolée.
Eh ben alors, pompe à chaleur sans problème. Vous avez quoi ? Vous avez les radiateurs tôle, j'imagine ? Tôle d'acier ?
Oui, au tôle d'acier, oui.
Donc pas de souci. Parce que vous auriez des grands radiateurs fonds, je dirais, bon, c'est moins performant. Enfin, la pompe à chaleur est moins performante dans ce cas-là. Mais là, vous ne devriez pas avoir de problème. Je pense que vous pouvez passer largement à la pompe à chaleur. Vous allez voir que vous allez faire des économies.
Arnaud, merci pour votre appel. Il est 7h18, c'est RMC. Il est temps de retrouver le conseil de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton. De Christian Pesset. Ah.
C'est toujours assez impressionnant, on a l'impression d'un tremblement de terre. Là.
Ah oui, et puis si vous recevez ça sur le pied, à mon avis, vous faites moins le malin.
Oui, c'est sûr.
Christian, le conseil de ce samedi, que faire face à la flambée des prix du fioul du fait des tensions internationales dans le Golfe?
Eh oui, vous avez remarqué que le fioul a commencé véritablement à grimper. Alors mon premier conseil, ça sera de ne pas céder à la panique en remplissant immédiatement sa cuve à ras-bord alors qu'on ne manque pas de fioul pour les premiers jours de froid. Parce que si tout le monde se précipite pour acheter du fioul, qu'est-ce que ça fait?
Ça fait des mouvements de fioul. Et le fioul,
à ce moment-là, c'est pas mal ça.
Les mouvements de fioul.
Voilà. Comme disait Edith Piaf.
Par la fioul, évidemment.
En plus, il fait pas vraiment froid. On n'a pas moins 10 pour la semaine prochaine. Donc, je pense, ne vous précipitez pas. Alors, il faut savoir qu'au plan international, le prix du baril de brut est encore très bas. Il est même descendu, j'ai entendu ce matin, en dessous des $50. Donc, ce qui veut dire que la poussée de fièvre qu'on a connue la semaine dernière.
Elle s'estompe
déjà. Il faut savoir que le prix du fioul aujourd'hui est encore inférieur à ce qu'il était au mois d'octobre de l'année dernière. Donc, il n'y a pas un phénomène absolument phénoménal d'augmentation des prix. Alors, en tout état de cause, il y a plusieurs façons pour payer son fioul moins cher. Il y a d'abord des sites qui existent, qui permettent de bénéficier de réductions importantes. Il y a Fuel Reduc, il y a Fuel Moins Cher, il y a Fuel Cdiscount la fidélité aux fournisseurs de fuel n'est pas toujours très récompensée. Finalement, vous payez souvent beaucoup trop cher parce que vous n'avez pas fait jouer la concurrence. Les achats groupés, ça, c'est le truc.
Qu'est-ce que c'est que ça, alors, Christian ?
Tout simplement, alors il y a plusieurs solutions. On peut tout simplement s'entendre avec ses voisins, on regroupe ses voisins et puis on fait jouer la concurrence. Et puis, il y a des site spécialisé, il n'y a que Choisir qui a développé choisirsonfuel.fr. Il y en a d'autres, il y a Fuel Market, Nego Fuel, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ces structures regroupent un certain nombre d'adhérents, on va dire, de gens qui commandent. Et effectivement, comme ils commandent des quantités astronomiques de fuel, eh bien le prix diminue. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Voir aussi du côté des grandes surfaces, il y a souvent des grandes surfaces alimentaires.
Ils font des promos.
Des promos qui sont intéressantes. Alors, j'irai un conseil aussi, achetez plutôt du fioul de qualité supérieure plutôt que du fioul basique parce qu'on en consomme moins. On en consomme moins, donc on retrouve souvent une partie
En fait, ça compense le surcoût ?
Pas tout à fait, mais c'est surtout pour avantage de ne pas encrasser votre dispositif, votre chaudière.
Ça, c'est bien.
Et c'est très bien. Et puis, il y a une solution intéressante. Là, j'ai trouvé ça. C'est passé chez nos confrères de France Télévisions. C'est un maire, le maire de Vignemont, dans l'Oise, qui propose que la commune achète collectivement le fioul pour ses administrés. Je trouve que c'est mignon. Il est génial.
Bah oui.
Il le commande donc par simple SMS. On vous envoie un SMS. Vous dites oui, bah, je commande. Et le résultat, c'est 20 à 30 euros par livraison de 1000 litres qui sont économisés.
C'est toujours ça de prix.
Et puis la commune, du coup, bah, elle paye aussi moins cher son fuel, donc les impôts, bah, voilà. Donc ça, je trouve que c'est une idée tout à fait intéressante.
Bravo, monsieur le maire.
Bravo, monsieur le maire.
Christian, 7h22. On revient dans un instant. Est-ce qu'il vous arrive de... j'allais dire chiner dans les brocantes, ouais. Vous balader comme ça dans les rues?
Moi, j'aime bien.
C'est vrai?
J'aime bien, mais on en parlera tout à l'heure. Je trouve qu'il y a de moins en moins de très bonnes affaires à faire.
Bah, on a l'impression que dans les brocantes, il y a de plus en plus de professionnels et de moins en moins.
Alors, ça aussi.
Des gens comme vous et moi qui louent leur petit tréteau et qui mettent un petit peu ce qu'ils ont trouvé dans leur grenier. On va en parler avec notre invité. Et notre invité s'y connaît puisque c'est le cofondateur de mybrocante.fr. Et si vous avez des questions sur ce sujet, sur les brocantes, le 3216, l'appli RMC Direct Studio, avec votre numéro de téléphone si vous nous laissez une petite question. On revient dans un instant après la météo.
C'est la météo sur RMC avec Région Job. Pour aborder la rentrée avec le sourire, rendez-vous sur Région Job et trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi.
Alors Claire, est-ce que vous êtes une adepte des brocantes? Moi je ne pense pas, je ne vous sens pas très brocante.
Bien vu, pas du tout, c'est trop tôt pour moi le matin.
Et voilà, c'est ça, ouais. C'est trop tôt, et puis vous êtes plutôt smartphone dernier cri, patati patata, très geek. Hein,
voilà, Claire, c'est
donc,
ça.
Voilà. Donc vous avez regardé d'ailleurs sur l'écran de votre ordinateur et la météo, qu'est-ce que ça donne?
Eh bien ça donne un temps agité aujourd'hui, en tout cas près de la Méditerranée, d'ailleurs le département de l'Hérault qui est placé en vigilance orange pour orages et pluies, inondations. Alors dès ce matin, c'est pluies qui sont parfois soutenues avec du vent vont concerner tout le golfe du Lion cet après-midi. Ça va gagner la région PACA, le sud des Alpes, plus au nord et à l'ouest du pays. Là, c'est mieux. Quelques nuages quand même qui pourraient apporter des averses, éventuellement un coup de tonnerre le long de la côte atlantique et enfin un temps beaucoup plus calme dans le nord-est du pays avec du soleil et de la chaleur. Les températures cet après-midi, le thermomètre va souvent s'envoler. 22 le minimum pour Brest, 24 à Strasbourg, 27 à Lille, Nantes et Marseille, 29 degrés à Paris et à Ajaccio, et 30 degrés le maximum, ce sera pour Bordeaux.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
À la brocante, à la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante,
Eh oui.
Des vieux phonos.
Alors, je connais bien Charles Trenet, mais je connaissais pas du tout cette chanson.
Et voilà, Charles Trenet, donc. J'aime bien parce qu'à l'époque, on ne disait pas brocante, on dit brocante.
Oui.
C'est vrai, il y avait
Charles traînait dans les brocantes, c'est sûr.
Mais oui, bien sûr, comme vous, Christian. Hey, Christian traînait et traîne dans les brocantes.
Voilà, les brocantes, les vides-greniers.
C'est notre dossier de ce samedi matin.
C'est notre dossier de samedi matin. Nous avons un invité qui connaît très bien tout cela, c'est Anthony Gros-Godonnier. Bonjour.
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 Vous êtes cofondateur de mybrocante.fr. Avant d'entrer dans le sujet, c'est quoi mybrocante.fr? Ça sert à quoi? C'est simplement un site qui recense les brocantes, non? Il y a
alors,
plus
non, d'abord, MyBrocante, c'est un outil pour les organisateurs de brocantes.
Ah oui.
Vide-grenier, enfin tout ce qui est autour de la vente au déballage, qui va permettre à l'organisateur de mettre en ligne sa manifestation pour que les exposants puissent réserver en ligne et payer en ligne. Donc, c'est réserver de chez soi son emplacement sur une carte interactive d'emplacement, pouvoir visualiser son emplacement en 5 minutes, et pour l'organisateur, c'est un gain de temps considérable. On fait gagner environ 300 heures en temps homme à nos organisateurs en moyenne sur chaque manifestation.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir que c'est très chronophage la gestion des inscriptions, bien la sûr, préparation en amont des brocantes.
Alors, d'ailleurs, qui organise des brocantes? Parce qu'on sent... C'est les villes, c'est quoi?
Alors, on a environ 80% des organisateurs qui sont des associations. C'est une très grosse source de financement. Financement en fait pour les associations, la vente d'emplacements, c'est ils font une animation par an pour vraiment se financer. Et après,
et sur la buvette aussi, j'imagine.
Voilà, la buvette, etc.
Les sandwichs, les merguez.
Et ensuite, on a les communes, les collectivités, donc les mairies en général. Et il y a une toute petite part de professionnels qui organisent, en tant que prestataires pour le compte d'association, qui organisent en propre, mais ça représente une toute petite part. Voilà.
D'accord. Et d'une manière générale, il y a de plus en plus de gens qui sont adeptes des brocantes.
Oui, alors la brocante, elle va en poupe. C'est vraiment, en termes de visiteurs, c'est vraiment des manifestations qui drainent énormément de visiteurs. À Lyon, où on est implanté, on a par exemple la brocante Chevreul qui draine, c'est sur une grande rue, ça draine 15 000 personnes dans la journée. Ouais. Voilà, c'est vraiment avec toute la mode du vintage, ouais, de la bonne affaire, tout ça, c'est...
Mais l'essentiel en nombre, c'est quand même les petits vide-greniers de village, de ville moyenne, c'est tous azimuts, quel que soit le type de commune.
C'est très éparpillé. Il y a des toutes petites manifestations avec 30 exposants, ou des très grandes avec, ça peut aller jusqu'à 1000 exposants, entre 500 et 1000, nous on considère que c'est une grande manifestation. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 60 000 manifestations par
60
an.
60
000 ventes au déballage par an.
Ouais. D'accord. Ouais. Alors, concrètement, je veux exposer. On va se mettre d'abord du côté des exposants. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on paye? Ça ne doit pas être très cher, parce que quand on voit ce qu'il y a sur les stands, on se rend compte qu'on ne peut pas en faire fortune, je pense.
Alors voilà, souvent, le prix de l'emplacement est déterminé aussi par la popularité de la manifestation. S'il y a beaucoup de professionnels ou plus de particuliers, généralement quand il n'y a que des particuliers, c'est moins onéreux.
Alors c'est quoi? C'est au mètre linéaire? C'est à la surface?
Alors
ça
généralement c'est au mètre linéaire, on raisonne en mètre linéaire.
Et en gros, voilà, c'est combien?
En moyenne, on est sur 4 euros du mètre linéaire, 4-5 euros.
Ah oui, donc ouais, c'est quoi? C'est une quinzaine d'euros pour la journée?
Oui, voilà, en moyenne un exposant va prendre 4 mètres.
D'accord. Et ouais, voilà. C'est une 15-20 euros.
Voilà, 15-20 euros.
Ouais, oui. Bah, il faut vendre au moins pour 15 ou 20 euros dans la journée pour
mais
avoir
alors, une question, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas des professionnels, mais des semi-professionnels, des gens qui sont des habitués, qui sont très organisés, ils ont tout leur barda, les parasols, etc. On peut faire combien de brocantes par an sans entrer dans le commerce?
Alors, la réglementation est simple. En tant que particulier, on peut faire 2 vide-greniers brocantes, enfin, vente au déballage par an.
Ah oui, c'est tout. 2, voilà, pas plus.
2, pas plus. Chaque organisateur doit demander à ses exposants une attestation sur l'honneur, comme quoi il ne fait pas plus de 2 vide-greniers par an. Ah oui. Après, il est considéré comme professionnel et donc il doit déclarer ses revenus de ses ventes en tant que professionnel.
D'accord. Voilà. Ah oui, c'est quand même réglementé. C'est pas réglementé à la bonne franquette comme ça.
Moi, j'avais juste une question. Est-ce que le Bon Coin, enfin tous ces sites-là, ont donné une espèce de stop en fait à la brocante et ralenti un peu cette activité ou pas?
Alors non, pas du tout. En fait, on se rend compte que la présence en ligne, la vente en ligne,
n'a pas d'impact sur la vente physique traditionnelle.
Voilà. Parce qu'avant tout, une brocante, un vide-grenier, c'est une animation, c'est pour dynamiser le centre-ville,
ouais,
le commerce, c'est de l'événementiel.
Voilà. Est-ce qu'il y a une garantie que donne le vendeur, c'est-à-dire quand on est sur ce genre de brocante, est-ce qu'on peut demander le nom, le numéro de téléphone de celui qui vous vend, par exemple une télé que vous pouvez pas tester?
Alors non, ça c'est bien le problème, c'est que
voilà, c'est à vos risques et périls là.
On arrive,
savoir.
On achète, je sais pas, un petit transistor vintage. Il est voilà, on peut pas le tester, on peut pas le brancher. On arrive chez soi, s'il fonctionne pas, malheureusement, l'acheteur.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on paye pas cher, oui, mais voilà, on n'a pas de
garantie. Il faut
garantie.
Pas payer cher d'ailleurs.
On n'a pas de garantie quoi.
Mais on peut négocier sur la brocante.
Oui. Voilà.
Ça fait partie du jeu, non?
Partie du jeu, oui, exactement.
Ouais. Est-ce qu'il y a des arnaques classiques? Est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Je sais pas. Est-ce que quelque chose de bien briqué, ça révèle peut-être un piège?
Mais je sais pas. Est-ce que si Christian Pessé me vend sa chemise 50 euros, par exemple, est-ce que vous pensez que je fais une bonne affaire ou pas?
Alors, je sais pas.
D'abord. Vous pouvez y aller. Hein, d'abord. Vous pouvez dire ce que vous en pensez.
D'abord, c'est pas parce qu'il a un polo avec un crocodile qu'il faut qu'il se croie.
Non, c'était un exemple.
Oui,
bien
mais
sûr.
Moi, je l'ai pas avec ces Christian.
Voilà, mais moi, il aime pas ma chemise. Moi, je la dédicacerai.
Je pense
aussi
que vous pouvez la négocier à 40 euros.
À 40 euros quand même.
Ouais,
quand même.
Alors, donc, les arnaques les plus classiques,
alors, généralement,
c'est quoi?
On est quand même sur des prix très bas parce qu'on a quand même beaucoup de particuliers sur la vente de déballage. Après, les arnaques, c'est quand vous êtes justement devant des exposants un peu semi-professionnels qui peuvent vendre des objets, soit de marques ou des objets, je sais pas, de design.
Ouais, ou de fausses marques,
voilà,
quoi.
Ou de fausses marques. Donc là, voilà, il faut faire attention. Il faut, voilà, pas trop pareil, c'est comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas trop de garanties, donc toujours...
Est-ce que on détecte tout de suite un vrai vendeur, d'un vendeur du dimanche qui vient vider son vide-grenier, ou est-ce que finalement c'est quand même assez subtil?
Ah oui, on s'en rend compte, on voit sur les brocantes, généralement les particuliers c'est assez familial, enfin vous voyez, d'accord, des familles qui déballent avec beaucoup de ventes d'objets, de jouets, de vêtements, ouais, d'enfants, et puis après...
Oui, les enfants qui grandissent, on, voilà, vend les anciens jouets, les choses comme ça.
Exactement, après quand vous voyez plus d'ameublement, de meubles, d'objets un peu vintage, de design. Là, on est sur des vendeurs plus professionnels.
Mais alors, sur les vrais brocantes, je vais dire, de professionnels, on est bien d'accord que là, en revanche, le vendeur doit avoir son panneau annonçant qui il est, son registre du commerce ou
alors,
le métier,
oui, il a une
sur
carte,
ce qu'il fait.
Oui, il a une carte de déballeur professionnel qu'il doit présenter à l'organisateur pour exposer en tant que professionnel. C'est très réglementé là aussi.
D'accord. Voilà. Sont les puces, par exemple, tout ce qui est puces parisiennes, je sais qu'il y a une nuit des puces aujourd'hui, là, ce sont des vrais pros, les puces Porte de Vanves, des choses comme
exactement,
ça.
Exactement, les puces de Saint-Ouen, les puces du Canal à Lyon, qui sont assez réputées, où là, on a des vrais vendeurs professionnels qui ont des beaux objets, qui sont un peu plus onéreux, qui ont été, qui sont restaurés. Ouais.
Là, on peut même exiger une facture, par exemple.
Ce sont des vendeurs professionnels, vous pouvez exiger une facture ou des certificats d'authenticité.
Anthony, est-ce que vous avez des conseils à donner à tous ceux qui nous écoutent, qui s'apprêtent peut-être à faire aujourd'hui ou bientôt une brocante? Est-ce qu'il y a des petites astuces, par exemple? Est-ce qu'il faut tout mettre d'un coup? Est-ce qu'on doit... Enfin, je ne sais pas.
Est-ce qu'il faut mettre des
prix? Quand on prépare son chaland, est-ce qu'il y a des petits trucs qui font que ça va pour attirer l'œil, etc.? L'emplacement aussi, ouais, je ne sais pas.
Alors, c'est sûr, déjà, il faut bien choisir son emplacement si l'organisateur laisse le choix.
Mais parce que si on est au fond du truc, derrière
les poubelles.
Voilà, exactement. On a toujours des rues dans lesquelles on vend moins, il y a moins d'affluence. Après, une brocante, quand on veut exposer, il faut bien sûr la préparer, il faut bien référencer ces objets, faire un fonds de caisse, parce que les gens arrivent payés en liquide, donc bien penser à faire un fonds de caisse.
Ah oui, donc il faut des pièces.
Il faut des pièces, il faut faire de la monnaie, bien préparer son stand. Moi, j'ai vu pas mal d'exposants qui mettaient de la musique sur leur stand et du coup, ça attirait quand même pas mal les visiteurs. C'est tout bête, on n'y pense pas.
Si tout le monde met de la musique, là, on est foutu.
Oui, bah après, c'est festif. Hein.
Ouais, et puis par exemple, on veut vendre une vieille platine vinyle, on la branche. Voilà. Bon, après, il faut trouver le courant,
Faut trouver de quoi la brancher.
Ça, c'est clair.
Voilà.
Et alors, justement, on parlait de vinyle, tous ces trucs-là, ça doit cartonner, non, en ce moment, non?
Alors, ce qu'on observe, il y a quand même pas mal de manifestations à thème, maintenant, qui se développent, donc sur les vinyles, le geek aussi, tout ce qui est jeux vidéo anciens.
Rétro gaming.
Voilà.
Oh, Christian, voilà. Bravo.
Sur le rétro gaming.
Vous m'avez sorti ça comme ça, là. Bam.
Voilà, donc ça c'est des manifestations qui sont un peu de niche, qui sont assez courues.
D'accord. Et alors quel est le top 5 des objets qui se vendent le plus ou qui s'arrachent le plus?
Alors tout dépendra de la manifestation. Voilà, d'accord. Si vous êtes sur un vide-grenier, il y aura, enfin,
par exemple, si j'ai des jeux vidéo, je suis sûr d'en vendre un bon paquet.
Alors des objets, les objets vintage, je sais pas, la Dame Jeanne, vous savez,
la grosse bouteille,
la grosse bonbonne, alors
autour.
Ça se vend très bien.
Ça se vend bien, oui.
Ce genre d'objet, c'est surtout des objets déco un peu anciens.
Voilà, si on a des objets déco un peu anciens, années 70, ça part.
Bon, les tabourets Tam Tam, par exemple.
Ah, les tabourets Tam Tam.
Ils sont réédités dans beaucoup de magasins.
Oui, qui coûtent une fortune d'ailleurs. Hein. Oui, si on achète les originaux, ça coûte un bras. Hein.
Exactement.
Donc, tout ce qui est déco, petits meubles aussi ou pas?
Oui, voilà. Alors, il n'y a pas de gros meubles sur les brocantes, rarement. C'est plutôt des petits objets du quotidien.
D'accord. Vous avez des questions sur ce sujet dès maintenant, appelez-nous. Hein. On parle de la brocante ce matin avec Anthony Gros-Godonier, c'est comme ça qu'on dit?
Oui.
Eh bien voilà, exactement. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Christian, vous avez encore des questions concernant la brocante?
Oui, j'ai des questions. Tiens, il y a un médecin qui entre sur ce plateau là.
Ah, vous voulez acheter un thermomètre?
Mais on pourrait peut-être savoir si.
Est-ce qu'on peut acheter un thermomètre?
Il n'y a pas des problèmes sanitaires aussi sur.
Des problèmes sur sanitaires sur le. Alors vous savez quoi, Christian Eckhap vient de rentrer. Il s'est jeté comme un lion sur une antilope sur le micro, mais heureusement nous arrivons à la contenir. On va le retrouver dans un instant. Et puis je vous rappelle donc vos questions sur la brocante dès maintenant 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. Et je serais curieux de savoir si Christian Eckhap est un adepte des brocantes. On va lui poser la question dans un instant. Tiens, c'est le suspense. À tout de suite.
RMC. Jusqu'à 8h. Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Allez, encore quelques minutes sur la brocante. C'est notre dossier de ce samedi matin avec Christian Pessé, bien sûr, et Anthony Gros-Godonier, qui est cofondateur de mybrocante.fr. Christian Eckhap nous a rejoint dans ce studio. Christian, est-ce que vous faites de la brocante un petit peu de temps en temps dans votre vincennes
préférée? Mon grand-père, depuis l'âge de 4, 5, 6 ans, les brocantes étaient obligatoires.
Ah, d'accord.
Et nous avions.
Faut pas faire une overdose après, parce que.
Alors, c'était le problème
quand
de mon grand-père.
Quand on fait ça et qu'on pleure.
Il avait une très grande maison. Et franchement, c'était chez lui une vraie brocante.
D'accord.
De très grande qualité, parce qu'il achetait quelque chose et il le remettait à neuf d'une façon exceptionnelle. C'était des pièces superbes.
Alors justement, l'une des questions que j'aimerais vous poser, c'est que il y a aussi des brocantes privées presque, c'est-à-dire des vide-greniers privés. Lorsqu'on veut quitter une maison, on fait son vide-grenier, son vide-appartement.
C'est le déstockage.
Justement, ça c'est quelque chose qui se développe énormément. C'est le vide-maison. Alors souvent ça intervient après le décès d'une personne âgée. Il y a une maison avec beaucoup de meubles. Et donc, on a plusieurs solutions, le bon coin et la brocante, ou faire débarrasser ça par quelqu'un.
Ouais.
Et souvent, c'est sur le modèle américain des garage sales, où on publie une date sur un agenda brocante.
Ah oui,
avec l'adresse. Et
d'accord.
Les gens viennent pour acheter le mobilier, les objets.
Oui, ils achètent et ils viennent prendre, en fait.
Oui,
c'est ça.
Voilà.
Après, ils se débrouillent. Ils viennent avec leur camion. Si c'est une armoire normande.
Acheter le Rembrandt, acheter des choses.
Voilà, parce que, à 10 euros.
Autrefois, ça se faisait sous la vente, et ça se fait encore à la campagne, sous les ventes aux enchères, sur site, sur la maison. On en voit encore.
Mm-hmm.
Mais là, c'est un peu assez différent. C'est vous qui organisez ça.
Oui, c'est différent, oui.
Dernière petite question. Nous avons une autrice qui nous dit: je fais une brocante demain, je me demande si les vêtements d'enfants se vendent bien.
Oui, ça se vend très 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 bien.
Eh bien voilà.
Oui, vraiment. Alors ça c'est quelque chose. C'est les exposants qui font les meilleures recettes généralement, les vêtements d'enfants.
Oui, parce que là ça se vend 1 euro. Enfin c'est quelque chose. Voilà. Mais si on en a beaucoup.
Il faut pas mettre des prix trop élevés.
Et non.
Mais si on veut tout vendre,
ça peut être pas mal.
Ça peut être pas mal.
Très bien. Bon, mais faites-les bien présenter et tout quand même, hein, pour que ça donne envie.
Oui,
hein.
Voilà.
C'est parti. C'est parti aussi du jeu, ça.
Oui,
hein.
C'est ça. Il faut avoir un stand qui.
Parce que si vous faites tout, mais si vous mettez tout en boule comme ça, on dévalorise un peu tout ça. Hein.
Exactement.
Et il n'y a pas de problème sanitaire justement sur ces objets. Il faut qu'ils soient déjà vendus. Enfin, ces vêtements, des choses.
Il vaut mieux arriver avec des vêtements propres.
Ça, non, mais il faut pas les acheter s'ils sont pas propres.
Oui, bien sûr.
Ah oui, à donner.
Ah oui, bien sûr.
Bien sûr.
Oui, effectivement. Merci beaucoup, Anthony Gros-Godonier, donc le cofondateur de mybrocante.fr. Christian, nous avons Nicolas au 32-16, on passe carrément à autre chose. Nicolas, bonjour.
Bonjour Pascal, François, et bonjour Christian.
Bonjour.
Ah, c'est pas mal,
bonjour
Pascal.
Fernand.
Hein.
Bonjour Fernand.
Alors, j'ai dit Pascal parce que Christian, je dois vous passer le bonjour de Pascal de Takayaka. C'est pour ça.
Ah, très bien.
Vraiment,
je le saluerai de ma part.
C'est qui ce Pascal de Takayaka?
Qui était venu, c'est un blogueur, un influenceur, comme
un
on
YouTuber,
dit aujourd'hui.
Oui.
Un YouTuber.
Ah oui, d'accord. Et Nicolas, on vous écoute. Que vous arrive-t-il?
Alors voilà, je me permets de vous contacter afin, en fait, d'éviter de diaboliser, en fait, finalement, le frein vapeur, le pare-vapeur. J'ai rencontré beaucoup de problèmes parce que je passe par un constructeur de maison individuelle. Et j'ai essayé de lui imposer certains matériaux. Et en fait, je voulais me conforter et puis un petit peu rassurer les artisans qui s'en sont plutôt friands maintenant depuis qu'ils l'ont mis en œuvre. Mais je voulais un petit peu avoir un retour d'un expert sur la mise en œuvre d'un frein vapeur. Est-ce qu'il faut le diaboliser? Est-ce qu'il faut le préconiser?
Pourquoi le diaboliser? Non, mais attendez, le frein vapeur.
Les artisans ont beaucoup d'échos négatifs par rapport à cela, peut-être dû à une mauvaise mise en œuvre ou alors une valeur SD qui a été mal calculée en fonction des matériaux choisis. Alors moi, je me suis passionné un petit peu sur le sujet, donc j'ai essayé de leur expliquer cela. Mais quand on n'est pas artisan et qu'on est un simple client, il est un petit peu compliqué d'avoir une crédibilité là-dessus. Et donc, c'est la raison de l'appel de ce jour.
Frein vapeur, par vapeur, c'est cousin. Veut dire que lorsqu'on met un isolant, il faut mettre justement un frein vapeur ou un par vapeur, qui était souvent traditionnellement, qui l'est encore en papier craft, hein, ou justement aujourd'hui ce qu'on appelle frein vapeur, une membrane qui est davantage respirante dans un sens et pas forcément dans l'autre, pour éviter les phénomènes de condensation. Donc je vois pas la problématique. La seule problématique aujourd'hui qui se passe, c'est que le frein vapeur ayant une étanchéité à l'air dans le sens de pénétration, parfois il cause des phénomènes de condensation parce que la maison est mal ventilée. Donc, frein vapeur, bien sûr, du côté le plus chaud, et évidemment, une bonne ventilation. Ça, c'est la règle absolue aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus négligé, notamment dans la rénovation, où on fait des cocottes minutes, si j'ose dire, je ne veux pas citer de marque, en tout cas, les autocuiseurs, parce que il y a une accumulation de vapeur d'eau dans la maison, il y a une étanchéité à l'air de l'habitat, ce qui est devenu une règle absolue avec la réglementation thermique 2012. Et qui va le devenir encore plus dans l'avenir. Et évidemment, sans bonne ventilation, on a des pathologies qui se développent, pathologies du bâti, c'est-à-dire de la maison elle-même, et pathologies des gens qui respirent mal, qui multiplication des germes. Je vois Christian Reca qui fort sympathiquement m'applaudit. On ne l'entend pas, mais on pourrait quoi. Voilà. Merci.
C'est vrai que l'hygrométrie d'une maison, c'est pour ça que j'ai imposé une laine végétale. Je ne cite pas non plus de
ça
de
ne sert à rien. Écoutez-moi, ça ne sert à rien que vous ayez du végétal ou de la laine de verre ou de la laine de roche. C'est pareil. Vous payez simplement un peu plus cher parce que vous prenez du végétal. Et ce n'est pas plus efficace.
Merci beaucoup Nicolas. 7h52, il est temps maintenant de retrouver, pour terminer ce rendez-vous maison, le coup de cœur de Christian Pesset.
Oui, alors mon coup de cœur, c'est pour les recommandations qui ont été émises cette semaine par le Conseil national de la Silver Economy, c'est-à-dire tout ce qui concerne les personnes qui commencent à avoir de l'âge chez elles. Alors, ces recommandations, elles sont pour garantir des logements adaptés aux personnes âgées et leur permettre de rester chez elles le plus longtemps possible, je le dis souvent, dans les meilleures conditions de bonne santé, de confort, de sécurité. Autrement dit, de reculer le plus possible l'entrée en maison de retraite, voire qu'il n'y ait plus de besoin d'entrer en maison de retraite. Alors, il y a 16 recommandations. Je ne vais pas vous citer toutes les 16. Il y a l'idée d'une étiquette d'adaptabilité pour les logements, comme il en existe pour les performances énergétiques. Ça serait génial. Un diagnostic habitat mobilité réalisé par des ergothérapeutes à partir du 70e anniversaire des occupants. Pour les personnes qui sont accessibles aux aides et subventions, l'instauration d'un tiers payant, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas besoin d'avancer l'argent pour faire ses travaux d'adaptabilité. Un système de primes d'anticipation des travaux d'adaptation basique dès 65 ans, 75 ans. L'absurdité, c'est de remplacer des douches, des baignoires par des douches quand on a 85 ans qu'on est déjà tombé. C'est absurde, c'est avant qu'il faut le faire. Enfin,
À partir de quel âge faut-il le faire alors ?
À partir, mais il n'y a pas d'âge. Dès qu'on a 40 ans, 45 ans, et si on peut, on remplace un baignoire par une douche. Enfin, un effort majeur en matière de sécurité et de maintien du lien social par l'utilisation de moyens technologiques modernes qui assurent un lien avec les professions de santé, avec les services sociaux, avec la famille, par la téléassistance, le monitoring, la télémédecine, la domotique. Tout cela doit être mis en place le plus tôt possible quand on arrive dans un vieillissement qui va fatalement vous rendre moins mobile. Et puis un label pour les professionnels du type RGE qui serait reconnu garant de l'adaptabilité, de l'adaptation, de l'accessibilité. Là aussi, il faut que les professionnels s'y mettent. Je sais que la CAPEB, avec Patrick Liebus, qu'on a déjà le président, qu'on a déjà reçu ici, sont en train de s'y mettre. Bravo. Ce rapport est transmis à Madame Buzyn, ministre de la Santé,
en espérant
et à Monsieur
de Normandie,
espérant qu'ils en feront quelque chose. Je pense que Christian est d'accord avec moi.
Encore une fois, Christian a fait une émission exceptionnelle parce que c'est un sujet majeur. Malheureusement, on n'a pas conscience de tout cela. Et il faudrait refaire une émission avec Christian et des professionnels de la santé. On en reparlera.
On va élaborer une émission comme ça.
Je vous rappelle que, attention, ce week-end des experts va se terminer exceptionnellement jusqu'à 9h, puisque débute la Coupe du Monde de rugby. Et à partir de 9h, en compagnie de Christophe Cessieux, on retrouvera l'intégrale Coupe du Monde avec le match France-Argentine qui sera à suivre en direct en intégralité sur RMC à partir de 9h15.